Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Été comme hiver, nous sommes nombreux à prendre la bonne résolution de courir ou de s'y remettre. Entre plaisir et souffrance, la course à pied procure d'immenses bienfaits, en termes bien sûr de santé et de bien-être psychologique. On se demande après quoi courent les joggeurs. Pourquoi courons-nous? Quelles sont nos motivations? Quelles sont les satisfactions que nous éprouvons? Pour nous éclairer, le fondateur de Sciences Humaines, Jean-François Dortier, et le philosophe Guillaume Blanc, mes complices du jour, Thibaut de Saint-Maurice et Antoine Lee. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Pour la quatrième fois dans son voyage à travers l'Amérique, Forrest Gump, le jardinier de Greenbow en Alabama, va franchir à nouveau le Mississippi dans la journée.
Pourquoi vous courez?
Vous faites ça pour la paix dans le monde?
Vous faites ça pour les sans-abri?
C'est pour le droit des femmes que vous courez?
Ou pour l'environnement?
Ou pour les animaux?
Il ne voulait pas croire que quelqu'un puisse être assez bête pour courir autant sans raison.
Pourquoi faites-vous ça?
J'ai juste envie de courir.
Je sais pas pourquoi, ce que je faisais semble avoir un sens pour plein de monde.
Je veux dire que ça a été comme un déclic dans ma tête, vous savez. J'ai dit, voilà un type qui sait ce qu'il fait. Voilà un type qui met ses idées en pratique. Voilà un type qui a la réponse. Je vous suivrai n'importe où, monsieur Gump.
J'ai couru pendant 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures.
Un extrait de Forrest Gump de Robert Zemeckis avec Tom Hanks en 1994. Bonjour Jean-François Dortier.
Bonjour.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Vous êtes fondateur et directeur de l'indispensable magazine Sciences Humaines et vous venez de publier Après quoi tu cours, enquête sur la nature humaine. Alors un jour, un samedi matin, vous êtes en train de courir et un sans-abri vous interpelle dans la rue et vous demande, tu cours après quoi?
Oui, effectivement. C'était le point de départ d'une question toute simple, toute bête, parce que j'ai des activités, des semaines très occupées. J'ai une réalisation professionnelle qui me satisfait. J'ai pas de choses vraiment à me prouver. Et pourtant, depuis des années, depuis 30 ans exactement, je cours. Et précisément ce samedi matin, donc, ce SDF qui était passablement aviné m'a interpellé en me disant, après quoi tu cours, toi? Alors, j'ai un peu souri. Et puis, en faisant mon petit tour, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais répondre honnêtement? J'ai créé une revue qui s'appelle Sciences Humaines, dont le but, c'est d'essayer de comprendre des êtres humains. Je suis moi-même coureur depuis à peu près autant de temps que je fais des sciences humaines. Je devrais être à même de répondre clairement à cette question. Sinon, à quoi sert? Eh bien, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une réponse. Et heureusement, au retour de ma course, il n'était plus là. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de creuser cette question en y mettant à la fois mes connaissances, celles que je peux tirer des sciences humaines, puis ma propre expérience, des enquêtes que j'ai menées autour des gens. Et puis, ça a donné ce livre. Finalement, je vous remercie.
Et vous pensez que l'on peut courir sans raison, comme Forrest Gump?
Alors, la première chose qu'on aperçoit quand on interroge les gens sur pourquoi tu cours, c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est jamais sans raison. Mais c'est toujours des difficultés à expliquer pourquoi on le fait. Alors, par exemple, certaines personnes me disent « Ah ben moi je cours pour le plaisir, vous l'avez dit tout à l'heure pour le bien-être. Tu parles ?» C'est une souffrance, la course à pied, pour l'essentiel. C'est un effort qu'on doit faire. D'ailleurs, les mots mêmes de la course disent résistance dure, endurance. Donc c'est une épreuve. Donc le plaisir, ça marche pas bien. Certains disent, c'est une addiction. On m'a dit ça. Mais avant que ce soit une addiction, il faut déjà commencer à courir au moins 3 fois par semaine. Donc ça peut pas être une raison primaire. On verra, on pourra en discuter si vous voulez, si on peut parler d'addiction. D'autres disent c'est pour bouger, c'est anti-stress. Mais on pourrait le faire en marchant, on pourrait jouer des cartes, aux cartes, tout ça. Donc il y a des dynamiques bizarres. Alors d'autres, c'est le printemps, c'est plutôt le début de l'année. C'est les bonnes résolutions de première année, c'est pour perdre du poids. Alors c'est beaucoup de gens effectivement qui se mettent à courir ou se remettent à courir pour perdre du poids. Curieusement, au bout de quelques temps, une fois qu'on a fait 3 km, 5 km, beaucoup abandonnent, puis certains disent « Bon, maintenant je voudrais faire 10 km ». Et il y a une autre mécanique qui se met en place, on dit « Bah, c'est pour me donner des défis ». Et toutes ces réponses-là, elles prouvent aussi qu'on a du mal à expliquer notre propre comportement. Et alors quand un jour on se retrouve à préparer un marathon à l'âge de 45 ans ou 50 ans, comme ça m'est arrivé, et vous êtes avec 40 000 personnes en train de hurler à 9h du matin, là, et là vous dites « Non, c'est quand même bizarre ce que je suis en train de faire et j'ai du mal à l'expliquer ».
Alors nous verrons tout au long de cette émission que des motivations multiples s'imbriquent pour expliquer ce qui nous fait courir. Le philosophe, le sociologue, l'évolutionniste, le psychanalyste apportent chacun des réponses qui se complètent.
Alors qui se complètent et qui en même temps...
Qui s'opposent parfois.
Alors voilà, elle s'oppose parfois. En même temps, j'ai la certitude ou le sentiment, en explorant de plus en plus les sciences humaines, que chacune de théories, effectivement, pourrait apporter des sortes d'éclairages. Mais il faudrait, comme des pièces d'un puzzle, pouvoir les rassembler. Malheureusement, personne ne les rassemble vraiment. C'est ce que pour ce fait que je travaille et j'essaye de faire ce livre, pour essayer de redonner une certaine unité à des causalités qui sont multiples.
Vous écrivez que courir est une énigme.
Oui, alors je dis parce que c'est une énigme pour soi-même. C'est quand même bizarre de se lancer dans des activités qui demandent autant d'exigences sans pouvoir toujours bien expliciter autour de soi, parce que vous passez pour un fou souvent autour de vous. Et si vous passez pour un fou, c'est que c'est bizarre et vous avez du mal à justifier. Donc il y a bien une première énigme. À titre personnel, d'interrogation sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui nous fait courir. Et puis deuxièmement, c'est une énigme pour les sciences humaines aussi, parce que je l'avoue, j'ai trouvé peu de consistance très solide dans les explications générales qu'on donne en disant c'est le culte du corps, c'est le culte de la performance, ce sont des motivations qu'on retrouve dans les livres sur les motivations. Eh bien, elle glisse tout à travers le phénomène. Donc, pour moi, ça reste quand même un mystère.
Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Avec une nouvelle coupe de cheveux. Grand reporter du quotidien de Grand Bien Vous Fasse. Alors, cette semaine, vous avez suivi l'un des membres de l'équipe qui s'est lancé le défi de participer au prochain marathon de Paris. Eh bien, c'est Thibaut de Saint-Maurice que vous avez suivi à petite foulée.
Voilà, je me suis intéressé.
Avec grand mal parfois.
Hein, ouais, Antoine. Alors là, j'étais impressionné. Hein, je me suis intéressé donc à la vie cachée de Thibaut de Saint-Maurice. Et donc, j'ai appris qu'en fait, son principe, c'était je cours, donc je suis.
On est très corporate. Ce matin, on accueille Marion Glémé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service de presse de France Inter. Alors vous êtes une joggeuse effrénée.
Je cours pour le plaisir, oui, toutes les semaines.
Pourquoi est-ce que vous courez ?
Trois fois par semaine, trois à cinq fois, selon le temps. L'été, je cours plus.
Quelle est la motivation profonde ?
Aucune, je cours après rien du tout. Mais je cours pour penser, d'abord pour penser, pour écouter la radio et pour écouter de la musique.
Pour penser, c'est-à-dire ?
C'est comme la marche, la course, en fait, on se retrouve et on est seul, parce que c'est quand même une activité individuelle, contrairement à un sport collectif. Donc c'est vraiment un moment pour moi.
Alors vous parlez
qui me libère.
Vous parlez de plaisir, mais la douleur est quand même très présente.
La douleur, elle existe au début, effectivement, parce que c'est quand même une souffrance. On ne fait pas du sport comme on lit un livre ou on va au cinéma. Mais passé quelques années, même avec un mal au genou, on court, on en a besoin, en fait. C'est très mental comme activité.
Et vous arrivez à vous motiver quand, par exemple, le matin ou le soir, il pleut, il fait très froid, il fait nuit. Vous arrivez à vous motiver pour aller courir ?
Oui, parce que je pense au plaisir que j'aurai après en revenant. Le plus dur, c'est de mettre ses chaussures, mais après, on est trop bien.
Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Rieux-la-Pape. Et ça voilà. Fait 23 ans que vous courez ?
Tout à fait. Et puis, vos interlocuteurs ont bien résumé mon mode de fonctionnement. Parce que j'ai commencé effectivement pour le plaisir, un peu le bien-être. Mais rapidement, je suis devenu un peu accro. Et comme je fonctionne pas mal au défi, je me suis lancé sur le fait de faire un marathon en 97 à Nantes. Et après, j'ai fait une quinzaine de marathons d'affilée. Et puis par le biais de rencontres, surtout d'une personne, je me suis mis à l'ultra trail en montagne en fait aussi.
C'est quoi l'ultra trail, s'il vous plaît, Jérôme ?
C'est la course longue distance en pleine nature avec beaucoup plus de dénivelé. C'est la référence en France, c'est l'UTMB à Chamonix.
Et Jérôme, pour vous, courir, c'est également une façon de se changer les idées ?
Alors maintenant, je cours régulièrement, mais plus sur de la petite distance, effectivement. Et c'est vraiment un moment, comme disait votre dernière interlocutrice, pour moi-même, où je me retrouve, ça me permet de me vider la tête. Et vraiment, c'est effectivement des fois un peu dur de partir, comme disait votre interlocutrice, de mettre ses baskets. Mais après, on est trop bien, donc ça vaut vraiment le coup d'y aller.
Alors pour aller dans le sens de Marion Glémé, il y a une auditrice qui nous écrit « En ce qui me concerne, courir est un accélérateur de réflexion. » Et en plus, ça fait du bien, Jean-François Dortier.
Oui, je comprends très bien. C'est moi mon cas. Et pour plein de personnes qui courent, on sent bien qu'il y a un moment particulier où le cerveau se met à fonctionner, à résoudre des problèmes. Moi, j'ai écrit des tas d'articles en courant. J'ai écrit une partie de ce livre en courant et mes autres livres, je les écris aussi en courant.
Il m'est même arrivé
souvent. Oui, il m'est même arrivé souvent de devoir amener avec moi un carnet et une note, des notes, parce que vous avez passé une matinée à travailler, vous vous heurtez à des problèmes, vous n'avez pas la solution. Aussitôt chaussé les baskets et parti sur la route, vous trouvez une solution, c'est une sorte d'illumination eureka. Et donc à ce moment-là, vous avez envie de noter. Alors depuis, je prends mon téléphone portable et je fais des mémos. Et donc c'est une façon de résoudre des problèmes.
Merci Jérôme de nous avoir appelé de Rieux-la-Pape. Et alors, j'ai un mail également de Nicolas qui nous dit « Je cours après moi-même, c'est un moment privilégié où l'on peut être en accord avec soi, où les sens s'aiguisent. Courir, c'est un rituel religieux où on se prépare à quitter le monde profane pour rejoindre le monde du running. » Jean-François Dortier, c'est un mystique.
Oui, alors là, Nicolas. Il y a des mystiques de la course. Hein. De toute façon, effectivement, quand d'ailleurs, c'est troublant hein, ce que dit cet auditeur qui parle du Tour du Mont Blanc. Hein, 170 km, 10 km de dénivelé, ou la Diagonale des Fous qui vient d'avoir lieu à La Réunion, l'Ultra Trail, ça ressemble à une activité quasi chamanique. Vous savez que les chamans se mortifient la chair, se font des épreuves pour atteindre des sortes de nirvana, d'états de conscience particuliers qui sont très difficiles à exposer, mais qui font que, si vous lisez le livre de Murakami qui s'appelle La solitude du corps de fond, il raconte bien ces moments qui sont des moments intenses, très forts, indicibles, peu racontables et qui viennent surtout au terme d'une souffrance extrême. Comme si se rejoignaient les deux extrêmes, c'est-à-dire l'intense joie et l'intense souffrance.
Après quoi courent les joggeurs, les runners, appelez-les comme vous voulez, c'est notre thème du jour. Nous recevons Jean-François Dortier et Guillaume Blanc. Alexa Rivière et Laure Grand-Besançon m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Théo Denmat et c'est Claire Destacan qui réalise.
Everything seemed brighter than the wrong. Betty, she warned me about my loving. Teddy was sure we'd fall apart. I told my folks I knew, man, I love you, that you would never leave me with no broken heart.
Excitement s'interprété Hold On Together.
Allez, qu'est-ce que tu fous là, avance, Alex.
J'en peux plus.
Grand bien vous fasse.
Il faut continuer, Alex.
Alors, tu veux pas qu'on te repose un petit
non,
peu
non, ça pète les jambes. Allez, on
allez,
va.
Un tout petit peu, s'il te plaît.
Allez, Rébéi.
Tu peux plus.
Non, je suis crevée. Hein.
Tu peux plus. Mais pense à la taille de ton cul, tu vas avancer, tu vas voir.
Sur France Inter.
Après quoi courent les adeptes de la course à pied? C'est la question que nous posons notre invité, Jean-François Dortier, directeur du magazine Sciences Humaines.
J'adore ça. Enfin, j'adore ça. C'est pas ça, c'est que je suis contente d'en avoir fini avec la tyrannie du jogging, là. Non, parce que, alors, franchement, je sais pas vous, mais moi, je suis intimement convaincue que l'humain n'est pas fait pour courir. Ah bah, c'est évident, je veux dire, on n'est pas fait pour ça. Tu vois bien comment on en chie, regarde ça. On a l'air de quoi, là, on sait pas quoi faire des pattes avant, là. On transpire comme des bœufs, on souffre comme des porcs. On a des points de côté, enfin, c'est laborieux. Genre les animaux, ils galopent comme ils respirent. T'as jamais vu un guépard s'arrêter en pleine course parce qu'il a un point de côté, mec. Mais non, parce que, putain, mais ils ont quatre pattes, les connards. Quatre. Ding, 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 ding. Donc tu comprends, ils sont toujours en contact avec le sol. Puis même, je veux dire, même, si l'humain était fait pour courir, eh ben on se serait pas fait chier à inventer la bagnole et tout le reste. Ben on ferait tout en courant, voilà. On irait au boulot en petite foulée bras souples, hop là. Je vais sur la défense, je te l'épouse. Et voilà.
Un extrait du spectacle Madame Foresti en 2015. Jean-François Dortier, l'humain n'est pas fait pour courir, comme nous le dit Florence Foresti?
Alors, en tout cas, ça correspond à une thèse qui a été défendue par quelques théoriciens de l'évolution. Il y a un livre célèbre qui s'appelle Born to Run, hein, qui a eu un grand succès aux États-Unis, qui est traduit en français. Et c'est même tout un courant de pensée qui correspond en gros à la mode paléo aujourd'hui, qui voudrait que, au cours de l'évolution, les humains, au contraire, avaient beaucoup couru pour chasser. Et même, il y a des courses qui sont étonnantes en Afrique du Sud, qu'on appelle les courses à l'épuisement, où l'homme court après l'antilope. Il peut, parce qu'il a des capacités physiques de pouvoir courir au long cours, courir après des animaux qui sont beaucoup plus rapides, mais qui peuvent pas faire des efforts au long cours. Donc le bushman, dans le désert du Kalahari, il part le matin, il part à la chasse d'une antilope, l'antilope le voit, elle fait quelques bonds pour s'éloigner, lui continue sa course, elle continue à courir, elle peut faire des pointes à 60-70 km/h, elle comprend pas pourquoi lui continue à courir, alors que manifestement elle le rattrapera pas, sauf que en fin d'après-midi, quand elle n'a cessé de redémarrer, elle est prise par la chaleur, parce qu'elle ne peut pas transpirer. Et puis, là, à ce moment-là, le bushman s'approche avec sa lance, elle s'effondre, et puis il peut la tuer. Alors, à partir de cette idée-là, certains spécialistes ont dit, ben, ça fait partie de l'évolution. Je n'en suis pas sûr que ce soit aussi net, parce que la chasse à l'épuisement, c'est quelques tribus qui le pratiquent. On trouve d'autres cas, mais c'est assez rare. L'homme, c'est certain, est fait pour marcher. Par contre, son mode de vie sédentaire d'aujourd'hui ne correspond pas à son évolution. On ne peut pas rester assis très longtemps. On le voit très bien, il suffit d'être dans un avion un peu longtemps, dans une voiture un peu... ou même dans une conférence qui dure trop longtemps. On a besoin de bouger. Notre corps est fait pour s'animer. Nous sommes des animaux, d'ailleurs, au sens premier du terme, c'est-à-dire on a besoin d'être animé, on a la bougeotte. Donc la course à pied, ça permet, comme d'autres sports d'ailleurs, de pouvoir exercer son corps alors que notre société, en quelque sorte, nous enferme dans des situations d'immobilité.
De quand date l'essor du jogging, de la course à pied telle que nous la connaissons? Alors, d'ailleurs, on doit parler de running, de jogging, de footing. Les termes sont très variés pour évoquer la course à pied.
Oui, les mots ont beaucoup changé en une génération. Parce que le phénomène, ce qu'on appelle aujourd'hui le running et qu'on pouvait appeler effectivement dans les années 80 le jogging, a une génération. Il commence aux États-Unis dans les années 70, à peu près au même moment en Europe. Il y a deux courants qu'on peut situer, que j'ai essayé de décrire dans mon livre. Il y a un premier courant qui sont des gens qui sont des vrais coureurs sportifs, qui avaient l'habitude, des athlètes, donc qui faisaient de l'athlétisme. Et de l'athlétisme, ça se faisait sur des stades. On était licencié d'une fédération. Et au début des années 70, il y a tout un mouvement de courses sur route, de gens qui veulent s'émanciper, parce que c'est des révolutionnaires, c'est des free runners. Il y a un beau documentaire qui s'appelle Free to Run, qui vient d'être sorti, qui raconte cette histoire, qui veulent échapper à l'institution. C'est le début du sport libre, hein, on commence à faire aussi du course hors-piste, on commence à faire du ski hors-piste, on commence à faire du surf. Donc tous ces sports free se développent. Et puis il y a un autre courant qui rentre, qui se développe au même moment, c'est le jogging. Et là, le jogging, c'est pas pour des sportifs, c'est une toute autre catégorie de population. Ce sont des femmes, ce sont des bourgeois américains sur la côte est, qui, pour des raisons de santé, commencent à courir parce que il y a notamment aux États-Unis des campagnes qui sont faites contre les infarctus. À l'époque, énormément de gens mourait d'infarctus. C'était devenu un problème de santé publique massif parce que le mode de vie de beaucoup de gens, c'était comme dans Mad Men, des gens qui, les hommes qui fument et qui boivent beaucoup d'alcool et qui, à 40 ans, font des infarctus. Alors, le remède jusque-là, c'était justement pas courir, hein, c'était... Hein, le remède à la survie, c'était Winston Churchill qui disait
no sport.
Le leçon à no sport. No sport, cigare, whisky and no sport. Donc, à l'époque, certains spécialistes, notamment un entraîneur qui va avoir un rôle très très important qui s'appelle Bowerman, écrit un petit livre qui s'appelle Jogging, qui va se vendre à des dizaines de milliers d'exemplaires, puis des centaines de milliers d'exemplaires, et qui va lancer la mode de jogging aux États-Unis.
Jean-François Dortier, vous avez rencontré un sportif accompli de 32 ans, Grégory, dans votre ouvrage « Coureur, cycliste, nageur », et qui établit une typologie des coureurs un peu farfelue, mais tout de même pertinente. Les Superman, les bonnes copines, les mystiques et les égarés. Les Superman, d'abord.
Alors les Superman, c'est on va dire la génération des années, c'est un peu le profil de Grégory, hein. C'est-à-dire c'est des jeunes cadres, trentenaires, qui sont des sportifs accomplis et qui ont des activités trépidantes toute la semaine et qui en plus font non seulement de la course à pied mais souvent sont des triathlètes. Donc ils font de la course à pied, du vélo et donc là ça correspond à ce qu'on a expliqué comme un culte de la performance. Ils sont dans la recherche de la performance. Ça c'est la première catégorie.
Les bonnes copines qui sont aussi des hommes.
Voilà. Alors évidemment c'est une typologie, ouais,
hein, un peu farfelue. J'ai trouvé
farfelue mais amusante parce qu'elle dit des choses. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne courent pas seuls et qui se laissent entraîner en groupe. Mmh. Vous avez dit tout à l'heure à votre collègue, c'était typique. Elle dit je voudrais bien courir, mais je sais pas. Bah viens courir avec moi. Et finalement, on se laisse entraîner. Et vous voyez maintenant de plus en plus des gens qui courent à 2, à 5 et parfois même à 30
personnes. Ça, ce sont
les bonnes
copines.
Voilà, les bonnes copines.
Alors après, il y a les mystiques et les égarés.
Alors, le mystique, c'est celui qu'on a entendu, l'auditeur tout à l'heure, qui explique, je suis un fou, je suis un mystique. Un ultra-trailer me l'a dit un jour aussi, en disant, pourquoi tu cours? Lui, il m'a dit, ben, on est des fous, on est des mystiques. Et eux-mêmes s'appellent les ultra-fondus. Pour bien montrer ce côté recherche de l'absolu et en même temps délire. Et puis, les égarés, c'est celui qui commence justement au mois de janvier ses résolutions. Puis au bout de 3 semaines, non, il n'est pas fait pour ça. Il va raccrocher les chaussures.
Bonjour Dorothée Barba.
Bonjour Ali.
Comment ça se passe le congé maternité?
Très bien, je suis privée de course à pied malheureusement.
Oui.
Ça va.
Alors vous êtes une fanat de running, de course à pied. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça vous manque, hein, Dorothée.
Ouais, ça me manque beaucoup. On dit beaucoup que les femmes enceintes n'ont pas le droit de boire d'alcool. C'est vrai que c'est dur, mais la course à pied aussi, ça me manque énormément. C'est amusant parce que j'arrive pas à me mettre dans une des 4 cases que vous venez d'évoquer.
Ouais.
Je me sens ni mystique, ni Superman. Moi, ce serait plutôt une manière d'accélérer la réflexion, comme l'a dit un auditeur tout à l'heure, de tout couper, de penser à rien pendant que je cours, de regarder les arbres et de penser uniquement au fait que je suis en train de courir. C'est assez agréable.
Est-ce que c'est une drogue?
Une drogue, je sais pas, parce que assez vite, quand on arrête, en fait, le besoin s'en va. Donc, l'accoutumance est pas excessif, quoi. Ça manque. La sensation manque, mais on s'en passe quand même aisément parce que ça reste une souffrance. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la course à pied, c'est que ça me rappelle mon enfance et les jeux qu'on faisait. Je sais pas si vous faisiez ça, Ali, mais par exemple, si j'atteins l'arrêt de bus en 317 pas, il n'y aura pas d'interro en maths aujourd'hui.
Ça me parle.
Ce genre de truc, je le fais sans arrêt quand je cours. Si j'atteins le deuxième tour de parc au bout de tant de minutes, c'est complètement absurde. C'est des jeux avec moi-même où j'ai l'impression de me fixer des objectifs, de les atteindre. C'est une fierté assez accessible, assez facile. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est très ludique, finalement, la course à pied.
Merci beaucoup, Dorothée Barba. Je vous souhaite un très bon congé maternité.
Merci
à très
beaucoup,
bientôt.
À bientôt.
Marion Glémé, du service de presse de France Inter, qui est venue passer une tête dans le studio parce qu'elle court énormément, que vous êtes une fanate de running. Vous vous reconnaissez dans quelle catégorie?
Justement, je suis comme Dorothée Barba. Je me reconnais dans aucune des cases.
Ni Superman, ni bonne copine, ni mystique.
Je cours pour le plaisir, par envie, par besoin. Donc, je dirais plus que c'est une drogue que... Qu'un hobby, mais non, je me retrouve dans aucune des cases. Et je me sens pas sportif pour autant, en plus.
Rebonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Rebonjour Ali.
Alors ce matin, vous vous penchez sur un cas de circonstance. La célèbre marque à la virgule, avec son slogan entré dans le langage courant, Just Do It.
Prête? Maintenant, mets-toi sous les projecteurs. Respire.
Ouais, nickel.
Maintenant, cours. Non, une vraie course. Tu vois, c'est comme ça qu'on court. Mais t'arrête pas là. Pas mal. Vas-y, maintenant.
Make your dreams come true. Just do it.
Voilà. Parler de Nike aujourd'hui, évidemment, dans une émission sur la course à pied, ça paraissait assez évident, et d'autant plus évident que Nike est non seulement une réussite commerciale, puisque ça reste malgré tout la première marque d'équipement sportif au monde, mais surtout une réussite publicitaire, donc, puisque tout le monde connaît la marque Nike, mais aussi tout le monde connaît plus précisément sa signature, Just Do It, qui depuis bientôt 30 ans, c'est 1988, se trouve indissociablement donc lié à cette marque. Pourtant, la compétition est rude, avec Adidas d'abord, qui est le numéro 2 sur le marché, et dont le slogan lui aussi s'est imposé comme une sorte de théorème universel. Il nous dit « Impossible is nothing ». Voilà. Et puis un peu plus loin derrière, troisième position sur le podium, la marque Puma et son slogan aussi lié au sport et à la vitesse, « Forever faster », toujours plus vite.
Alors comment expliquer le succès de Nike et que nous dit la marque en nous disant « Just do it » ?
Et bien d'abord, Nike, c'est un peu le poids du mot et le choc de l'image. Le nom même de la marque pèse de tout son poids mythologique, puisque Nike, c'est en fait une référence à la déesse grecque Nike, déesse de la victoire, dont vous pouvez voir, si vous allez au Louvre, une célèbre représentation, la victoire de Samothrace. Et puis, choc de l'image avec son logo, c'est la virgule, vous savez, un peu retournée à l'horizontale, qui connote donc le mouvement, la vitesse et puis l'effort. Mais le plus fort dans tout ça, c'est de passer de la référence mythologique à la prescription existentielle. On l'a entendu dans l'extrait de diffusé au début, qui est un extrait de publicité de Nike, en nous disant « Just do it », on pourrait traduire par « Vas-y, fais-le », Nike, en fait, nous encourage. Il devient l'entraîneur de nos vies, un peu le coach de nos efforts. C'est un encouragement donc ferme, une sorte d'appel à la performance et au dépassement de soi.
Un peu comme une invitation à passer à l'acte.
Voilà, exactement. Et si le slogan est si efficace, c'est parce qu'au fond, il est libérateur. Pour le comprendre, ce lien entre l'encouragement et la libération, on peut faire un petit détour par la philosophie existentialiste de Sartre. Alors, je ne suis pas certain que Sartre fût un grand sportif, mais en revanche, il pense que l'homme ne se définit que par ce qu'il fait. Pour Sartre, c'est mon action, ce que je fais, les tentatives et les efforts, même ratés, qui définissent ce que je suis et qui permettent à mon existence, du coup, de prendre du sens. La seule chose qui compte, c'est donc d'arrêter de rêver, d'arrêter de théoriser et commencer à faire, parce que c'est en faisant que l'on se fait soi-même et que l'on se libère donc de tout ce que les autres, de tout ce que la société, de tout ce que l'histoire et les idéologies ont essayé de faire de moi.
Nike nous propose donc finalement de mieux nous connaître.
Oui, c'est vrai, en un sens, c'est une connaissance de soi, mais de façon assez singulière. C'est pas par une introspection consciente, c'est pas du Descartes, c'est pas du « je pense donc je suis », c'est pas non plus par une enquête historique ou sociologique, mais c'est par l'action elle-même, par la confrontation à la réalité de son corps, à la confrontation de ses efforts et de sa performance. Finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler une approche pragmatique de soi. Et alors le pragmatique, ça tombe bien parce que c'est une philosophie aussi, et c'est une philosophie qui est plutôt américaine, avec par exemple l'un de ses derniers représentants, le philosophe contemporain Richard Rorty, et son livre qui s'intitule « L'espoir au lieu du savoir ». Et bien justement, Nike nous propose de troquer la connaissance de nous-mêmes par l'espoir du dépassement de soi. C'est donc en fait le passage à l'acte, l'effort du faire et de la mise en mouvement de moi-même qui vont me permettre de mieux me connaître. Parce qu'au fond, tant que je ne fais pas, je ne peux pas vraiment savoir qui je suis. Alors pour toutes ces raisons, le slogan de Nike est plutôt séduisant, sauf que en nous invitant à passer à l'acte, à nous bouger donc, en nous encourageant dans nos efforts, Nike participe aussi de cette mobilisation générale des êtres, qui est le propre d'une certaine réduction économique du monde et puis de nous-mêmes. Just do it, c'est un slogan formulé à l'impératif, faut pas l'oublier. Cet impératif-là, il faut aussi donc l'interroger. Parce que faire, s'efforcer, se dépasser, ce sont aussi de nouvelles injonctions d'une idéologie de la performance dont il faut être conscient pour ne pas la subir. Et puis parce qu'elle n'est pas l'alpha et l'oméga de nos vies. Et puis le sport lui-même, on l'a entendu, n'est pas réductible juste à la compétition et à la performance. Il y est aussi question, comme vous le disiez Marion, de sensations, de plaisir ou de soin de soi. Nike, c'est un équipementier. Ok, il peut nous donner les moyens de faire du sport, mais c'est à nous de donner le sens que l'on veut au sport dans nos vies.
Vous restez avec nous, Thibaut. Notre reporter Antoine Lee vous a suivi dans votre préparation pour le marathon de Paris. Après quoi courent les joggeurs, les runners, appelez-les comme vous voulez. C'est notre thème du jour. Nous recevons Jean-François Dortier et Guillaume Blanc.
Viens, mon ami, partons le cœur léger, la route est longue. arriver, la route est longue. Longtemps, j'ai douté longtemps, je l'ai redouté, le moment est arrivé de te dire adieu, de te conduire en heure et lieu. Oh les cœurs, avançons, il ne faut pas faiblir, la route est longue. Avant midi, l'affaire sera réglée, la route est longue. Combien j'ai goûté ton amitié, jamais n'oublierai nos balades dans les forêts. Je t'emmène faire un tour, le dernier tour des fossés. Allez, avançons, il ne faut pas traîner, la route est longue. Avant la nuit, je dois être rentré, la route est longue. Combien de sillons labourés, combien de saisons et combien d'acres de blé. Les années, mon vieux, ont passé, ce que la vie nous a gâtés. Donne-moi ton dernier trop, la route est longue. Avant midi, le glas devra sonner, la route est longue. Longtemps redouté, longtemps, je l'ai repoussé, le grand jour est arrivé de t'emmener faire le dernier tour de nos prêts.
Bastien Lallemand interprété Avant midi.
Faut que vous sachiez, les filles, que quand les Delpech, là, les Dev, les Sardou, rentraient de boîte de nuit pétées comme des coins,
grand bien vous fasse,
Claude, dépotron minet. Il était ici.
Sur France Inter.
Et yogi.
Après quoi courent les joggeurs, les runners, appelez-les comme vous voulez. C'est notre thème du jour. Nous recevons Jean-François Dortier, directeur de sciences humaines, qui publie Après quoi tu cours, enquête sur la nature humaine. Alors, Jean-François Dortier, la course à pied, c'est bien sûr un phénomène social, sociétal, mais c'est aussi un phénomène psychologique. La psychologie croule sous les théories de la motivation. Vous en avez recensé dans votre ouvrage près de 101 théories dans les placards. Alors, on va essayer de dégager les plus pertinente selon vous. Il y en a 6. D'abord, je cours par instinct, selon la psychologie évolutionniste.
Alors on en a parlé à l'instant, ouais. C'est la théorie Born to Run. L'être humain serait programmé en quelque sorte pour courir. Un enfant, dès qu'il se met sur ses deux jambes, il court autant qu'il marche. Donc c'est assez... Il grimpe d'ailleurs les escaliers aussi, hein. Il fait des tas de choses différentes. Donc c'est une première théorie qui voudrait, je ne pense pas qu'il court, mais enfin qu'il a un besoin instinctif d'activité physique.
On court pour le plaisir.
Alors, le plaisir, bien sûr, c'est une des motivations centrales, mais là encore, les théories du plaisir sont bizarres s'agissant d'une activité qui fait autant souffrir.
C'est pas une partie de plaisir de courir, bien sûr.
Donc, j'ai essayé d'analyser aussi dans le livre les différents types de plaisir qu'on peut trouver. Il y a une motivation curieuse qui a été dite tout à l'heure, et certains me l'avaient dit aussi. Moi, j'aime bien parce que quand j'arrive, je prends ma douche. C'est un peu l'histoire du fou qui, après, s'est fait mal et se trouve dans un état de bien-être particulier.
Quel est le plaisir physique ressenti par les coureurs chevronnés?
Alors, il y en a plusieurs, hein. Mais il y a un plaisir assez particulier qu'on appelle le running high qui survient quand on a commencé à s'entraîner vers 45 minutes après le départ d'une course. À un moment donné, on commence à être fatigué et puis d'un seul coup, C'est comme ce qu'on appelle le deuxième souffle. On est porté d'un seul coup, toute la souffrance s'élimine. Sans doute un phénomène d'endomorphine où on sent à la fois un sentiment de bien-être corporel et en même temps une sorte d'euphorie qui nous porte. Et ce phénomène-là est assez spécifique, il est bien décrit par certains coureurs.
Alors pourquoi la notion de flow, développée par un célèbre psychologue américain d'origine hongroise, Mihaly Csikszentmihalyi, s'applique pour bien comprendre le plaisir du coureur? Et en deux mots, qu'est-ce que cette notion de flow?
Alors, la notion de flow, c'est le fait d'être totalement impliqué dans ce que l'on fait. C'est-à-dire que j'en suis dans une activité où je ne vois pas le temps passer, et je suis entièrement plongé dans mon activité, absorbé. Voilà, c'est le flow. Alors c'est assez particulier pour la course parce qu'il est très utilisé, parce que c'est un peu la mode pour ce mot-là. Quand vous faites du trail justement, vous êtes obligé de courir en faisant très attention à ce que vous faites, parce que vous êtes dans des chemins de montagne, vous devez regarder si vos pieds ne vont pas marcher sur une pierre, sur un trou, glisser sur une feuille, et donc vous devez être absorbé. C'est très différent de ce que vous avez dit tout à l'heure, lorsque la plupart des gens courent et qui en même temps rêvassent. Et là on n'est pas du tout dans le flow, c'est l'inverse du flow. C'est ce qui fait que l'être humain, en général, il fait très souvent quelque chose, et en même temps, son corps fait quelque chose, et son esprit est ailleurs.
Alors, parmi les théories de la motivation, il y a l'idée que je cours car j'ai besoin de me défouler ou d'affronter des défis.
Alors, le besoin de défoulement, je pense qu'il y a un lien très précis entre l'essor des sports et puis la montée du stress dans la société. Quand on dit que c'est un besoin de performance, c'est aussi un besoin d'arrêter la performance pour beaucoup de gens. C'est quand vous avez, c'est une façon d'enlever son uniforme social, les soucis de la famille, du travail. C'est une récréation, la course à pied. Donc, c'est un anti-stress très très fort parce que on retrouve d'abord des plaisirs de l'enfance, des plaisirs corporels, de se retrouver en short et de pouvoir patauger dans la boue, ça c'est un... ça reste... on reste des grands enfants.
Et puis je peux courir aussi par habitude, parce que je suis conditionné, selon la psychologie comportementale, l'amour de la course s'installe aussi avec l'habitude.
Oui, mais là encore c'est une notion que j'interroge, parce que l'habitude c'est plus fréquemment ce qu'on s'impose, c'est des rituels de course. Un rituel, c'est des heures qu'on se donne pour aller courir. L'habitude, c'est quelque chose de machinal. Or, les coureurs le savent bien, il y a des jours, vous l'avez dit tout à l'heure, il pleut, il fait froid, on n'a pas envie de courir, mais c'est l'heure d'y aller, alors on le fait quand même. Et donc, un rituel, c'est autre chose qu'une habitude. C'est-à-dire, c'est pas une activité qui est routinière, comme ça, qu'on se fait, comme on se brosse les dents.
Et puis, je peux courir également parce que je me suis laissé influencer.
Bien sûr, et là encore, il y a différents types d'influences. Moi, je crois que grandes influences sociales qui expliquent souvent la course en disant « c'est parce qu'on est dans une société où il y a des injonctions à être performant, des injonctions à être en bonne santé, des injonctions au bien-être », marche assez mal parce que le sport de la course à pied s'est développé essentiellement par capillarité, par le bas, par des contacts avec des amis, avec des personnes qui s'entraînent. Et souvent, c'est pas des grandes forces sociales qui viendraient du haut, c'est souvent beaucoup plus des interactions entre individus qui ont poussé à ce phénomène.
Agnès nous dit par mail, à 62 ans, je cours tous les jours environ 45 minutes, quelques 5 kilomètres, pour ma santé, mais aussi pour rendre une visite quotidienne aux arbres de mon beau parc à Francfort. Courir est le lien le plus fort avec ma jeunesse, désormais passée. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Vous appelez de l'Essonne. Où dans l'Essonne?
Arpajon.
Bon. Alors pourquoi courez-vous, Sébastien?
Moi j'appartiens à plusieurs catégories, c'est-à-dire à la catégorie mystique et Superman, on va dire. Voilà.
Expliquez-nous.
Les catégories, je crois, sont pas aussi étanches que cela. Là,
bien
on
sûr.
A voulu catégoriser les choses, mais bon, le spectre est très très large. Donc, moi, c'est à la fois un lieu de recueillement, et je dis bien recueillement, à la fois, c'est vrai, pour trouver des solutions à mon travail, mais aussi sur de la psychologie interne. Je fais beaucoup de travail de psychologie interne. Moi, je me mets sur le divan en courant, un peu. Voilà. Ça peut paraître curieux, mais j'arrive à cet état, et ça c'est très important de vous le dire, parce que moi je fais une grande différence entre le jogging et la course à pied. Pour moi, faire du jogging, c'est pas courir, c'est pas faire du sport. Je suis un peu intégriste, désolé.
Un petit peu.
Mais quand je vois des gens courir sur un trottoir à Paris, pour moi ils font pas de sport, ils font autre chose, ils font quelque chose d'autre, mais c'est pas du tout du sport, c'est pas de la course à pied.
Jean-François Dortier, sur ce que vient de nous dire Sébastien.
Oui, je comprends très bien, pendant très longtemps, moi aussi, dès que j'ai fait mon premier marathon, je détestais qu'on me traite de jogger, en me disant tu vas faire ton jogging. Non, il y a une stratification très forte chez les coureurs, entre ceux qui sont... Quand vous avez fait un marathon, vous vous sentez partie d'une élite, d'un Superman, qui, comme il était dit. Aujourd'hui c'est devenu tellement commun qu'effectivement il vaut mieux être encore ultra-trail l'heure. C'est une des raisons d'ailleurs, c'est l'histoire du pack up, hein, qui pousse toujours à aller un peu plus loin.
Merci beaucoup Sébastien de nous avoir appelé de l'Essonne. Rebonjour Antoine Lee.
Rebonjour.
Grand reporter du quotidien de l'émission. Alors cette semaine, vous avez suivi l'un des membres de l'équipe, Thibaut de Saint-Maurice, qui va participer très prochainement au Marathon de Paris, et vous avez eu du mal à le suivre, avouons-le.
Et c'est vrai qu'au départ, bah, ça m'a intrigué, hein. Pourquoi donc notre ami professeur de philo s'est-il imposé à 37 ans ce challenge? Et quand j'ai retrouvé Thibaut, première surprise, c'est sa tenue. Et dans le studio de France Inter, il faut le dire, il est toujours très élégant, un style vestimentaire un peu à l'anglaise encore aujourd'hui. Mais là, pour ce jogging, Thibaut avait mis la parfaite panoplie du marathonien. Une casquette vissée sur la tête, basket de course, gilet absorbant jaune fluo et un joli fuseau moulant, très sexy. Et pour ce petit jogging, je dois l'avouer, j'ai eu un peu de mal à suivre sa foulée.
La première chose, c'est de sortir son téléphone et de lancer l'appli qui, en fait, permet de calculer le nombre de pas, le nombre de kilomètres, la distance. Ça permet de voir le suivi aussi, de se rappeler que la semaine dernière, on a pu courir, 12 kilomètres et que là, on a fait que 9 et qu'on n'a pas été aussi bon. C'est motivant.
On y va ?
Allez, c'est parti. Alors, on commence doucement, hein.
Ouais, je veux bien. Parce que moi, j'ai pas d'objectif, hein, de boucler le marathon de Paris. Thibaut, qu'est-ce qui vous a pris? Alors, pourquoi vous êtes lancé ce défi de faire le marathon de Paris?
Quand j'étais étudiant, j'étais assez sportif. Après, on commence à travailler. Moi, j'ai 3 enfants. Et puis, il y a un bout de quelques années, on a l'impression de s'être un peu empâté. L'idée, là, c'était de me fixer un défi physique et en même temps de volonté aussi, un peu. C'est un jeu avec soi-même. C'est de savoir jusqu'où on a la force de se pousser.
Moi, plus ça va, plus j'ai du mal à parler quand même. Est-ce que depuis que vous êtes lancé dans cette aventure-là, est-ce que vous voyez autrement?
Ouais, ça renforce vraiment l'estime de soi.
Mais est-ce qu'on se sent plus beau?
La motivation, elle n'est pas esthétique. La motivation, elle est plus éthique. C'est-à-dire dans le rapport de soi à soi. C'est-à-dire d'être capable de ne pas subir son propre corps, on va dire. Et puis de l'emmener un petit peu... se dépasser, quoi. Duration 14
minutes 11 seconds. C'est quoi cette dame qui parle là?
C'est la dame de l'appli qui nous dit combien de minutes on a couru, combien de kilomètres on a fait et notre moyenne par kilomètre.
Faire le marathon de Paris à 37 ans, c'est pas un peu tard?
C'est une épreuve sur laquelle la moyenne d'âge est un peu plus élevée que ce qu'on croit. Autour de 35-40, je vais pas être le seul, quoi. Au fond de moi, il y a aussi cette idée de me dire je peux encore le faire. Alors là, je lance ma playlist de musique.
Alors, il y a quoi alors dans cette playlist pour vous motiver? C'est de la musique classique, la bande originale de Rocky Balboa?
Non plus, non, c'est du rap.
Ah bon? Pourquoi le rap?
Quand on court, on n'a que ça à faire en fait, d'écouter ce qui se dit. Voilà, d'écouter, se concentrer sur les punchlines, sur les histoires qu'il raconte.
Attends, je trouve pas ça hyper stimulant comme musique. Pour le coup, Rocky c'est cliché, mais au moins c'est entraînant.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vais mettre Rocky sur ma playlist.
Thibaut, vous êtes philosophe. Donc, le principe c'est un esprit sain dans un corps sain.
Bizarrement, j'ai pas complètement réfléchi cette pratique que ce que je fais. Je me suis plus écouté, j'ai plus écouté une envie, des sensations, un plaisir, plutôt que d'avoir fait une longue réflexion sur les raisons qui m'ont poussé à... C'est un moment en fait où je pense pas quand je cours. Et pour le prof de philo, c'est pas mal de pas penser de temps en temps. Mais d'une certaine manière, c'est une façon de se connaître. C'est l'injonction « connais-toi toi-même » à travers le jogging.
Je cours donc je suis.
Je cours donc je me sens exister. C'est vraiment quelque chose qui passe beaucoup par la sensation. On continue?
Pour moi, ça ira.
D'accord.
Si ça vous embête pas, Thibaut.
Ok.
Ça va mieux, Antoine Lee?
Oui, ça va mieux, mais pas tout à fait honnête. Thibaut m'a fait courir quand même 45 minutes.
Ouais, il était très fort. Il courait en plus avec l'enregistreur et tout, avec son sac. Enfin, c'était un vrai défi.
Jean-François Dortier, en courant, on ressent souvent la joie intime, hein, du devoir accompli. cette joie évoquée par, par Thibaut de Saint-Maurice?
Oui, on passe par plusieurs phases, parfois aussi des découragements, il faut le dire, hein, parce que comme on souffre, parfois on se blesse, bon. Et puis, il y a ce mystérieux besoin du défi et de réaliser des petites performances, chacun à son échelle. La course offre justement, c'est un des rares sports où, sur un marathon, tout le monde gagne. Donc, ou même si vous faites 10 km ou 5 km comme l'a dit tout à l'heure cette dame, à chaque fois on construit sa propre échelle de valeur, ses propres défis, et donc on peut arriver à toucher à quelque chose qui est un ingrédient très fort dans les motivations humaines, c'est le besoin de se réaliser, mais pas simplement de se réaliser par un pur plaisir de consommation passif, mais c'est quelque chose comme un sudoku, un mot croisé. Je construis quelque chose, je me lance, j'ai un effort et j'accomplis ce résultat. Le need of achievement, disent les anglo-saxons.
Guillaume nous dit par mail, je fais beaucoup de courses à pied et je me dis que les grandes courses comme les marathons sont parmi les rares compétitions sportives où l'on n'a aucune chance de gagner. On finira au mieux 50e, 100e, 1000e. On est donc confronté à soi-même, on se dépasse sans autre adversité que le défi qu'on s'est fixé et je trouve ça beau. Bonjour Geneviève.
Oui, bonjour.
Vous appelez des Pyrénées-Atlantiques, bienvenue. Vous appelez d'où exactement? Vous appelez d'où exactement dans les Pyrénées-Atlantiques?
J'appelle de la campagne, de la montagne, près de Laurent-Sainte-Marie.
Alors vous avez 60 ans demain, je vous souhaite un bon anniversaire par avance. Et vous courez depuis l'âge de 25 ans, c'est ça?
Oui, je cours depuis l'âge de 25 ans. Je ne suis pas une grosse coureuse, je n'ai jamais fait de marathon, de semi-marathon. Je cours au maximum 10-12 km, mais très 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 régulièrement. Donc peut-être que je suis pas du tout dans la catégorie des fous furieux, je ne pas.
Et pourquoi courez-vous, Geneviève?
Alors moi, c'est purement du plaisir. J'ai même pas aucune notion même de défi. T'en parlais le précédent auditeur ou le précédent invité. Il n'y a pas de défi du tout. C'est purement du plaisir. C'est de la nécessité aussi. J'emmène mes chaussures partout où je vais, chez les amis. Je prends toujours un moment. C'est ma priorité. J'ai besoin de courir et j'en retire un plaisir énorme.
Il y a de la souffrance quand même, Geneviève, un petit peu. Il y a de la souffrance.
Mais non, même pas.
Non, même pas.
C'est ça qui est curieux, vous parlez de souffrance. Moi, j'ai jamais de souffrance. Je ne me fais jamais mal. Enfin, je ne vais jamais jusqu'à me faire mal. Non, il y a même pas de souffrance du tout. J'aime l'effort, mais c'est qu'une question de ça. Aimer l'effort. Je cours en montant, en descendant, je cours que je fasse beau, j'adore courir sous la pluie, sous la neige, il fait froid, bon. Je trouve ça très beau.
Bon, mais Geneviève, vous avez 60 ans, vous êtes une superwoman, et écoutez, bonne course aujourd'hui si vous courez.
Ça y est, non, j'ai couru à 10h au moment où vous commencez l'édition, justement.
Ah,
je suis allée
d'accord.
Courir quand même, et je vous ai rattrapé en cours.
Bonne journée à vous, Geneviève.
Merci.
Jean-François Dortier, pour terminer, pour essayer de comprendre après quoi courent les joggeurs, les runners, j'aimerais que nous nous arrêtions sur la pyramide des besoins du célèbre psychologue humaniste américain Abraham Maslow, mort en 1970 en faisant un jogging, lui qui avait un cœur fragile. C'est quoi d'abord la pyramide de Maslow et pourquoi est-elle utile pour comprendre après quoi courent les joggeurs?
Alors, c'est la pyramide de Maslow est à la psychologie ce que Champollion est à l'égyptologie. Hein, c'est parmi les 101 théories psychologiques, c'est la plus connue. Alors j'ai pris celle-ci, non pas parce que c'est la plus pertinente, mais elle a un intérêt, c'est de montrer que les besoins humains, ils se construisent par des étages successifs. Alors lui décrit, nous sommes un animal, donc nous avons besoin de manger, de boire, il y a des besoins qui sont des besoins sociaux, d'être au contact avec les siens, et puis petit à petit on grimpe l'échelle pour arriver au sommet de l'échelle qui est celle de ce qu'il appelle la réalisation de soi, qui est assez énigmatique, et qui dit,
ça veut dire quoi?
Alors il donne pas de réponse, il dit, un musicien a besoin de faire de la musique, un poète a besoin de faire de la poésie. Et donc, alors, c'est une question qu'on peut se poser. La course à pied, c'est bizarre parce qu'elle semble prendre l'inverse de la pyramide de Maslow. Parce que quand on se donne justement des objectifs aussi importants que de gravir une montagne, que de faire un marathon, là, on doit réprimer ses besoins élémentaires, le confort, tout simplement, le confort physique pour aller au-delà de soi. Donc, Abraham Maslow, paradoxalement, lui est mort en faisant ce sport, alors que il était consacré institutionnellement, il avait tout réussi, et puis il s'est tué par cette activité qui est quand même une douce folie chez les humains.
Très vite, Thibaut de Saint-Maurice, Marion Glémé du service de presse de France Inter, courir, ça contribue à votre réalisation de soi? Thibaut de Saint-Maurice.
Ah oui, d'une certaine manière, bien sûr. Oui, parce que c'est de l'équilibre, parce que ça apporte de l'équilibre.
Marion Glémé.
Complètement un équilibre. Ça vient compléter le reste des choses qu'on peut s'imposer pour se faire du bien. Lire, marcher, courir, c'est comme manger en fait, c'est vital.
Anthony, on va se mettre au jogging?
Oui, on va s'y mettre.
Merci à tous d'être venus. Vous pourrez retrouver toute la bibliographie sur le site de Grand Bien Vous Fasse. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Silly, still in my jeans. When I fell asleep, I was still in my jeans. Then I had a one girl to keep me clean. She wanna eat man like Idi Amin. What do you mean? I come for the cream. I made some mistakes that I gotta redeem. You put me in position I don't wanna be in. We all made mistakes, I'm a human being. North Korean, Kim Jong-un when I spray the machine. You're on the other side if you ain't on my team.
You get blacklisted if you hate on my team. Fam, I say what I mean, I keep my demons close. Late night, I speak to the ghost. Get high, fell asleep in my clothes. Animal instinct, sex, money, murder, I fear nobody. Keep something on me, cause I'm better safe than sorry. I'm a top boy like Sully with a six-figure hobby. You're still on the road, better be getting that belly. Kicking off doors, better give it some welly. I came in the game, ran it like an athlete. Got a big money scheme, all my brothers had to eat. Thought I was a scrub sitting in the back seat. I was counting my money, making sure it's complete. They can't compete, there ain't no competition. I take what I want, you get what you were given. They're calling me a rapper, man, I think I'm a magician. I didn't wanna kill them, but these niggas never listen.
Narcissist still in my jeans. When I fell asleep, I was still in my jeans. Then I had a one girl to keep me clean. She wanna eat, man, like Idi Amin. What do you mean? I come for the cream. I made some mistakes that I gotta redeem. You put me in position I don't wanna be. We all made mistakes, I'm a human being. North Korean, Kim Jong-un when I spray the machine. You're on the other side if you ain't on my team.
As soon as I wake up, I be chasing my dreams. All we do is win and we ain't changing the teams. I still creep through the hood. Pull up on my brother just to see if he's good. See them with the gang, they be giving me looks. See him on his ones, I can see that he's shook. Mad cause I made it. New whip looking like a spaceship. You're looking like you're stuck inside the matrix. I could teach you how to hustle, how to save it. When the money talks, I can translate it. I'm the go-getter. G'd up with my feet up, it's no pressure. They make threats, but they never put their hands on me. They know better. You would get pepper, hot like Coachella. You're not clever, you're coming unstuck. I was up north, I was getting enough love. Back down south, trying to make a young buck. And I'll be still going when the sun comes up.
Narcissist still in my jeans. When I fell asleep, I was still in my jeans. Then I had a one girl to keep me clean. She wanna eat, man, like Idi Amin. What do you mean? I come for the cream. I made some mistakes that I gotta redeem. You put me in position I don't wanna be. We all made mistakes, I'm a human being. North Korean, Kim Jong-un when I spray the machine. You're on the other side if you ain't on my team.